Gaston Pavlovski, L'amour mort. C'était le jour bienheureux de la grande fête mondiale de l'accélération. Depuis l'heure déjà lointaine où Kilowatt, l'homme aux doigts de caoutchouc, avait ouvert les portes de l'usine et déchaîné sur le monde les effluves radieux du soleil artificiel, des centaines de citoyens à cerveaux de bronze phosphoreux se hâtaient sans raison dans les grandes artères et dans les rues veineuses, de retour en criant « 93 ! 93 ! 93 !» Ce qui signifiait que le rendement absolu des nouvelles dynamos d'État venait d'atteindre 93%. La satisfaction scientifique était générale, car chacun savait que les progrès de l'animal État ne pouvaient plus dépendre que du seul accroissement de la vitesse sociale. Des hommes-cellules, il n'était plus en effet question. Abondamment nourris avec de l'arsenic féniqué, pourvus de bras en bismuth, de cerveaux électrifiés, et où sa batterie, il n'avait qu'à se laisser fonctionner dans les conditions étroitement délimitées, et leur bonheur, suivant les données exactes de la science, ne pouvait plus s'accroître. L'animal état, tout au contraire, demeurait perfectible. On avait pris au premier temps de l'humanité pour une simple fiction juridique. Mais avec le progrès inouï de la science, on s'était aperçu bientôt de sa réalité surhumaine. Le remplacement d'une cellule homme était donc un fait naturel, sans portée. La mort de l'État, tout au contraire, eût entraîné celle de tous les hommes qui ne vivaient artificiellement que par lui. Les uns après les autres, entourés du respect de tous, les membres du cerveau central abordaient le toit du palais de l'État et descendaient par l'ascenseur à effluve dans la salle de la science où se tenait la séance annuelle de l'accélération. Assis devant des claviers, les 118 savants d'État étaient là, impassibles et muets, et au-dessus d'eux siégeaient majestueusement, sous la direction du savant absolu, les 20 vieillards d'autrefois, les ancêtres ayant connu l'humanité par des livres aujourd'hui détruits pour la sûreté de l'État surhumain. Il s'agissait, chacun le savait, dans les 6 premières minutes de la séance, de juger un sujet bizarre, nommé cadmium, dévoyé du droit chemin pour une évasion de 3 mois dans les déserts désaffectés de l'ancienne Europe, et sur lequel pesait l'accusation rapide et capitale d'imprécision scientifique. À vrai dire, les idées de ce fou ne semblaient guère valoir une telle dépense de temps. Et les citoyens à cerveau de bronze s'efforçaient, mais en vain, de comprendre le véritable motif qui pouvait pousser les 21 vieillards d'autrefois à interroger ce dément dans des circonstances aussi solennelles. Quelques secondes passèrent. Aux effluves bleues succédèrent les effluves rouges, et cadmium parut, introduit par un automate et fortement entravé par 2 hypnoses du pied. Son regard, libre, clair et lumineux, erra un instant avec indifférence vers la coupole où se croisaient les instantanogrammes des fourneaux, des bourneaux de province, puis brusquement, ardemment, se posa sur une jeune fille assise au banc des témoins et qui anxieusement attendait. Soudain, les claviers s'agitèrent et le savant absolu se leva pour résumer l'idéographie accusation. Cadmium prétendait, premièrement, qu'un raisonnement qualitatif devait remplacer par la direction des cellules humaines la méthode scientifique d'État basée sur le temps et l'espace. Deuxièmement, que sans recourir à l'État surhumain, l'homme, par la culture de sa propre volonté, avait pu dompter les éléments, s'élever dans les airs, planer sans appui matériel et même écarter la mort. Troisièmement, qu'avec l'accroissement de cette même volonté individuelle, l'homme aurait pu se déplacer instantanément d'un lieu dans un autre et ne plus se soumettre aux règles absolues de l'espace. Quatrièmement, que cette augmentation formidable des forces individuelles ne pouvait sans doute se produire qu'en fonction d'autres passions aujourd'hui inconnues, mais dont il y avait urgence de rechercher la nature dans l'histoire des siècles passés. À cette lecture, de violents effluves de protestations traversèrent la salle, et le savant absolu reprit avec dureté « Je ne puis comprendre dans quel but vous avez demandé, lorsque vous étiez en observation, à ce que vos idées fussent soumises à l'attaché du laboratoire Benzamide, fille de l'illustre Anthracite, avec laquelle vous avez fait vos études. Vous avez affirmé que sans son approbation et sans sa présence, vous ne pourriez rien réaliser. Eh bien, elle est là aujourd'hui devant vous, et je dois vous prévenir que cette occasion de vous expliquer est la dernière qui vous soit offerte. » Un long silence plana. Hagard, de toute l'angoisse de ses yeux, Cadmium regardait Benzamine et son effort de compréhension paraissait effrayant. Les 21 vieillards d'autrefois et les 118 suivants suivaient cette scène avec impatience. Nerveusement, le savant absolu se leva. En l'absence de toute explication de part de l'accusé, nous suspendons l'audience 3 minutes pour permettre à Benzamide de rédiger ses conclusions. Sans plus savoir au juste ce qu'elle faisait, Benzamide s'enferma seul dans le laboratoire adjoint. Ses idées s'embrouillaient, les théories et les méthodes dansaient devant ses yeux comme prises de folie. Violemment, elle essayait de classer ses pensées, de voir clair en elle-même. Heureuse, elle l'était, sans aucun doute. Son père n'était-il pas le glorieux inventeur de la repopulation d'états artificiels qui remplaçait, elle ne savait au juste, quelle méthode primitive et hors d'usage, d'âge. Toutefois, elle n'était pas une fille comme les autres. Et parfois des idées étranges l'assaillaient. Jadis, lorsqu'elle travaillait avec Cadmium, elle avait de brusques chagrins quand le jeune homme employait des méthodes qui n'étaient pas les siennes. Et seule, de toutes ses compagnes, elle ne s'était pas fait raser les cheveux ni les sourcils. Et puis elle n'aimait pas son nom. Elle préférait s'appeler Narcotine ou Connaigne. 2 minutes passèrent, puis brusquement, sans savoir pourquoi, Benzamine sentit au fond de ses joues les larmes brûlantes qui coulaient. Instinctivement, la jeune fille se leva, prit une éprouvette et analysa rapidement dans l'atmomètre. En haut, 982, chlorure de sodium 13,0, sels minéraux 0,2, matières albumineuses 5,0. Je deviens folle, pensa-t-elle. Il n'est rien en dehors de la science. Ce fou déshonore l'État. La troisième minute s'achevait. Benzamide rentra dans la salle, prit sa place et d'un mouvement de tête fit signe qu'elle n'avait rien à dire. Puis elle détourna les yeux. Un déclic, un corps qui bascule et cadmium glissa inerte sur la table iodoformée. Et tandis que Benzamide, la tête vide et sans pensée, regagnait le laboratoire de son père social, les 21 vieillards se levèrent et passèrent dans la salle du conseil privé. Là, tremblants encore de la dangereuse expérience qu'ils viennent de tenter, ils se regardèrent lentement, sans parler. Eux seuls au monde savaient que quelque chose d'immense venait d'être à tout jamais détruit, quelque chose de fabuleux dont l'humanité ancienne avait vécu durant les siècles, quelque chose dont le nom seul eut mis l'État en péril, et sur l'amour définitivement mort, sur les cendres de la divine souffrance d'autrefois, assurés désormais les citoyens de bronze au cœur d'automates, ils purent entrevoir enfin le triomphe colossal du monde artificiel, définitivement placé et ployé sous les griffes d'acier de l'État surhumain. Dans la rue, la foule docile criait encore « 93, 93 !» Ce qui signifiait que le rendement absolu des nouvelles dynamos centrales venait d'atteindre 93%.